On s'en va rejoindre le docteur François Marquis, chef des services des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bonjour, François.
Bonjour.
D'abord, bonne année.
Ben oui, bonne année, bon retour.
Ben oui. Thomas Gerbet, le journaliste de Radio-Canada, nous apprend, c'est qu'il y a des hôpitaux qui débordent à Laval, par exemple. Ils ont transféré des patients de l'hôpital de la Cité de la Santé vers les hôpitaux de Saint-Jérôme et de Pierre-le-Gardeur, ça c'est à Terrebonne. Il y a des patients COVID également qui ont été transférés de l'hôpital Pierre-Boucher de Longueuil vers les hôpitaux Charles-Lemoyne et l'hôpital de Saint-Hyacinthe. Toi, de ton côté, à Maisonneuve-Rosemont, est-ce que ça craque aux coutures?
Oui, ça craque aux coutures. On n'a pas encore eu besoin de transférer de patients à l'extérieur de l'île de Montréal, mais ça fait déjà plusieurs semaines, nous, qu'on travaille avec les gens de l'île de Montréal à redistribuer les patients au quotidien. Là. Ce qui est nouveau, c'est que les patients vont vers l'extérieur des grands centres plutôt que le contraire. C'est plus ça l'élément nouveau dans cette nouvelle-là.
OK, donc toi, tu dis que déjà à Maisonneuve-Rosemont, depuis un certain temps, vous êtes obligé, dans certains cas, quoi, de refuser des patients puis de demander aux ambulances de les envoyer ailleurs?
Non? C'est pas comme ça que ça fonctionne. On accueille les patients, puis après, on essaie, pendant qu'ils sont à l'urgence, on leur trouve un autre hôpital, et là, on fait un deuxième voyage en ambulance. C'est qu'il n'y a pas personne qui se fait refuser dans un hôpital. Là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a eu brièvement, pendant la semaine passée, parce qu'il y avait vraiment un gros problème là au niveau de la disponibilité des lits, il y a eu les ambulances ont été d'emblée envoyées vers d'autres hôpitaux plutôt qu'à Maisonneuve-Rosemont, mais c'est pas genre que tu te cognes le nez. Quelqu'un qui arrive sur pied à Maisonneuve-Rosemont ou dans n'importe quel autre hôpital, on s'occupe de lui. C'est juste qu'après ça, ça se peut qu'on le redirige, que ce soit lui ou un autre patient. Là.
Et donc, est-ce que vous avez déjà des ententes, ce que vous appelez dans le jargon des corridors, là, donc des ententes préétablies avec certains établissements vers lesquels vous dirigez les patients en trop, non?
Non, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Le problème avec les corridors de service, c'est que ça amenait justement, pas du favoritisme, mais ça complexifiait beaucoup le système et ça menait les gens à faire beaucoup de téléphones et à perdre beaucoup de temps. C'est que présentement, on a un système, ça s'appelle le COOLCI, qui est comme le 911 des soins intensifs. Si je déborde, ces gens-là, c'est un système qui est centralisé, c'est un numéro de téléphone, je dis que j'ai un patient en trop, j'explique les besoins de ce patient-là et eux ont, en temps réel, tous les lits libres de soins intensifs de la région. Donc, ils sont capables de dire, ben écoute, ton patient va aller dans tel hôpital, je vous mets en contact, toi et le médecin des soins intensifs de cet hôpital-là, et on va organiser un transfert. Donc, c'est une zone qui a la vision globale de tous les lits de soins intensifs.
D'accord. Là, ce que je lis, c'est que il y a certains hôpitaux, là, par exemple, le CHUM, le CUSUM, et l'hôpital juif à qui on aurait demandé d'ajouter des lits en soins intensifs, François. Donc,
oui, ben, effectivement, c'est pour répondre à cette demande-là qui est accrue. Puis oui, c'est quelque chose qui est prévu dans le plan. Quel hôpital, dans quel ordre vont devoir augmenter leurs ressources, leur offre de services?
Bon, là, les chiffres sont sortis pour aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que le nombre d'hospitalisations... La bonne nouvelle, c'est que le nombre de cas confirmés a diminué de beaucoup. On avait une moyenne d'à peu près 2500-2600 depuis une semaine. Là, aujourd'hui, on est à 1869 cas. La mauvaise nouvelle, c'est que les hospitalisations augmentent de pas mal. À part ça, 56 hospitalisations de plus pour un total de 1436. Et aux soins intensifs, on remonte au-dessus de la barre des 210. On est à 211 personnes qui sont aux soins intensifs. Es-tu inquiet?
Oui, je suis fondamentalement inquiet parce que tout ça était prévisible. On sait que quand les patients tombent malades, ça leur prend quelques jours avant de se faire hospitaliser et quelques jours en plus après pour se ramasser aux soins intensifs. Cette vague-là qu'on a eue, qui est clairement un reflet des tricheries du temps des fêtes, faut pas oublier qu'il y en a une deuxième qui s'en vient. Là, ça, c'était la tricherie de Noël qu'on vient de ramasser en pleine face. La prochaine, c'est la tricherie du jour de l'an puis les voyageurs qui reviennent. Et là-dessus, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des gens qui continuent de tricher puis qui clairement comprennent pas quand on dit que le système de santé est sur le bord de lâcher. Là.
Alors, mettons sur une échelle de 0 à 10, 10 étant la situation la plus catastrophique, tu dirais qu'on est où, François? Quand tu regardes pas juste ton hôpital, quand tu parles à tes collègues, quand tu regardes ce qui se passe, quand je te parle de ces transferts d'une région à l'autre, on est à quoi là, sur le niveau d'urgence?
Je pense qu'on a quitté le 8, on est en train d'être confortablement assis dans le 9.
Et si on arrive à 10, il arrive quoi?
Le triage avancé. Ça, c'est le moment où on décide qui va avoir accès ou pas au système de santé.
Qui va avoir accès ou pas au respirateur, par exemple, dans les soins intensifs?
Exactement. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ce protocole-là ne prend pas en compte que les patients avec la COVID. C'est tous les patients dans les soins intensifs. Moi, si on active ce protocole-là, tous les patients deviennent égaux et on donne les ressources à ceux qui ont le plus de chances de s'en sortir. Ce qui veut dire que quelqu'un qui aurait un autre problème, qui n'est pas lié à la COVID, pourrait, avec le protocole, se faire débrancher. C'est ça la réalité, là. Et il n'y aura pas d'exception. Et tout le monde pense, là, « Ah, je vais m'en sortir ». Ça s'appliquera pas à ma famille, ça s'appliquera pas. C'est un système qui ne connaît pas. Les gens sont un numéro. C'est peu importe ta religion, peu importe ton groupe social, peu importe tes croyances, peu importe tes désirs, tu passes dans le tordeur du système. Et là, il y a une priorisation qui se fait. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas un médecin qui veut se rendre à faire ça. Il va avoir un impact sur le tissu social qui va être majeur si on se rend là et on doit ne pas se rendre là.
As-tu déjà vécu ça, toi?
Il n'y a personne qui a jamais vécu ça. C'est pas arrivé du triage avancé dans le système de santé au Québec sur une échelle provinciale. À ma mémoire, ça n'est jamais arrivé.
Là, on n'est pas dans une logique de faire peur au monde. Là. Je vous le dis, là, moi, je suis rentré, j'étais très, très de bonne humeur, j'ai eu des bonnes vacances. Fait que je suis pas là du tout dans un état d'esprit où je veux vous inquiéter outre mesure. En même temps, François, ce que tu nous décris, c'est un petit peu ce qu'on a vu en Italie, là.
Exactement ce qu'on a vu en Italie. La seule différence avec l'Italie, à ce que je sache, c'est qu'en Italie, ils ont été comme pris avec ça dans le sens où c'était chaque hôpital qui devait un peu se débrouiller. On a vu un peu la même chose à New York. Ici, c'est qu'il y a un protocole qui va être provincial. Et ça, c'est quelque chose qui est particulier. C'est certain qu'on n'est pas encore rendu là, mais on s'y approche. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'à chaque jour, on s'y approche. Moi, j'ai pas encore vu de bonnes nouvelles qui me disent qu'on s'en éloigne. C'est ça le problème, là.
Parce que là, ce qui se passe, dans le fond, là, quand je vous dis qu'il y a des patients qui sont transférés d'un hôpital à l'autre, ce que ça veut dire, François, là, puis corrige-moi si je me trompe, là. Mais ce que ça veut dire, c'est que tu as des hôpitaux où les soins intensifs sont complètement... Tous les lits de soins intensifs sont pris. Et là, dans le fond, ils transfèrent des patients COVID dans d'autres unités de soins intensifs où il reste des lits, donc dans des hôpitaux où il reste des lits. Mais s'il fallait se retrouver dans une situation à un moment donné où toutes les unités de soins intensifs sont pleines partout, mettons dans la grande région de Montréal... Là, c'est là qu'il va falloir prioriser. Là, on pourra plus trouver de plan B dans un autre hôpital parce que lui aussi va être plein.
Exactement. Et ce qui est pire que ça, encore, parce que tout ce que je viens de dire là est absolument vrai. Moi, la première vague, j'étais capable, avec difficulté puis beaucoup de sacrifices, on était capable d'accueillir 30 patients de soins intensifs. OK? Maintenant, présentement, je suis bloqué à 18. J'ai des lits de libre, j'ai des respirateurs de libre. Je manque d'infirmières et surtout, je manque d'une allothérapeute. Et il y a encore, dans certaines régions, du personnel qui pourrait être transporté et qui pourrait être envoyé de région à région. On peut transporter des patients, on peut aussi transporter du personnel. Et si des hôpitaux qui ont des lits physiques, mais qui leur manquent de personnel, si on était capable de les garnir, on ouvrirait d'emblée beaucoup de lits pour des patients, qui ferait en sorte qu'on s'éloignerait du protocole de triage. Présentement, il y a des lits physiques équipés qui ne sont pas utilisés dans les hôpitaux du Québec par manque de personnel. Et ça, il faut se poser la question, jusqu'où... Est-ce qu'on transporte ce personnel-là? Est-ce qu'on met des incitatifs? Est-ce qu'on oblige les hôpitaux qui ont des surplus de personnel, parce qu'il y en a qui ont des surplus relatifs. Il y a personne qui cause ça. Il y a personne, là, qui a un surplus d'infirmières, mais il y a des endroits où il y a quand même encore des surplus relatifs. Est-ce qu'on déplace ces allothérapeutes-là? Est-ce qu'on déplace ces infirmières-là pour ouvrir des lits de soins intensifs dans les hôpitaux qui ont du matériel, mais qui n'ont pas de personnel pour nous éviter de nous rendre jusque-là? Parce que transporter les patients, c'est une chose, mais si on transporte du personnel, on ouvre plus de lits et on aide plus de patients. Fait que là, il y a des décisions là en haut de la pyramide qui doivent se prendre, là.
Bien, justement, il y a un point de presse à 15 heures. Je vous le rappelle, le premier ministre François Legault, accompagné du ministre de la Santé, on va vous présenter ça en direct à 15 heures. Et pour la première fois, et ça, c'est pour vous dire qu'on est entré dans une nouvelle zone, là, il y aura une sous-ministre adjointe qui s'appelle Mme Opaterni, qui est la responsable du délestage. En fait, c'est elle que l'espèce de qui est comme la générale qui fait la coordination entre les hôpitaux, puis qui va être au point de presse pour répondre à toutes les questions qu'on pose présentement là, sur les risques de débordement, sur les risques des unités de soins intensifs soient remplies à pleine capacité puis soient obligées de se tourner vers d'autres unités de soins intensifs. Ça va être la première fois qu'elle est là, là. C'est pour vous dire. Là. S'il l'amène dans le point de presse à 15 heures, il y a une raison pour ça. Juste avant de se laisser, le dossier de Santé Québec qui est en panne généralisée depuis 48 heures, c'est Véronique Prince qui nous l'apprend. Le fameux DSQ, ça c'est le système informatique qui nous permet de... Par exemple, quelqu'un arrive à l'urgence, le médecin, l'urgentologue est capable de savoir la personne qui arrive en fonction de sa carte d'assurance maladie. Voici les antibiotiques qu'elle prend, voici les médicaments qu'elle prend, voici ses allergies. Ce système-là est en panne depuis 48 heures dans les hôpitaux puis dans le système de santé.
Oui, en fait, complètement en panne, puis en dehors de nous dire qu'il est en panne, puis que c'est une panne majeure, puis qu'il savait pas quand est-ce que ça allait revenir fonctionnel, on n'en sait pas plus. C'est inquiétant, surtout pour les médecins de première ligne, parce que quand quelqu'un est inconscient, on tombe pas mal là-dessus.
Ben oui, c'est ça. Si tu veux connaître son historique, puis elle peut pas répondre, il reste le DSQ. Et là, le DSQ est à terre. Vous l'avez su quand, François, que le DSQ était en panne?
Moi, je l'ai su ce matin quand j'ai ouvert mes courriels. Je suis certain que ceux qui étaient sur le plancher s'en sont rendus compte bien avant. Mais le message officiel, là, je l'ai reçu pendant la nuit.
Ça n'arrête pas de bien aller, n'est-ce pas, mon cher?
Exactement.
Bon courage. Bon courage. Bonne chance, François. Même si, enfin, oui, ça en prend un petit peu de chance. Mais c'est surtout beaucoup de travail. On est chanceux de les avoir, nos employés de la santé. Merci encore une fois pour votre dévouement. Merci à François. Et d'une certaine manière, il parle pour tous ceux et celles qui nous soignent et qui s'occupent de tous nos patients. Pas juste les COVID. Tout le monde. Merci d'être là. Merci d'être au poste, même si on sait que c'est pas facile.